travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Mais aussi, fabuleuse aventure où la vie authentique, subjective et spontanée prépare de nouvelles assomptions à la lumière verte de la régénération spirituelle, à la lumière verte des forces inconscientes et irrationnelles, à la lumière verte des victoires, des triomphes et des prophètes.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Je me suis un peu étonné ces jours derniers en considérant l'émotion créée par la décision des écologistes de ne pas soutenir le traité européen et l'embarras provoqué de ce fait chez les socialistes que nul, à ma connaissance au moins, n'est évoqué le titre d'un ouvrage de Stendhal datant de 1837 et intitulé « Le rose et le vert ». Il faut dire que ce roman est bien moins connu que « Le rouge et le noir », notamment parce qu'il est demeuré inachevé. Mais tout de même, « Le rose et le vert », même si on n'en connaît pas la fin, voilà une belle actualité. Vous aurez vite compris, j'imagine, que c'est là pour moi une manière littéraire de vous conduire vers notre sujet d'aujourd'hui qui sera le vert, je veux dire la couleur verte, dont l'histoire, bien loin de sa portée politique contemporaine, mérite d'être contée dans la durée des siècles. Michel Pastoureau, mon invité ce matin, publiera prochainement un livre sur ce sujet, après tant d'autres écrits admirables consacrés à la symbolique des couleurs. Et je me réjouis qu'il ait accepté de nous proposer ce matin une sorte de bande-annonce, je ne dirais pas teasing, rassurez-vous, une bande-annonce de son prochain ouvrage qui paraîtra bientôt aux éditions du Seuil. Il y écrira ceci, je le sais déjà, le lien entre le mot « vert » et l'écologie politique est devenu tellement fort qu'il est aujourd'hui impossible de le prononcer sans qu'il prenne aussitôt une connotation liée à cette dernière. Le vert n'est plus tant une couleur qu'une idéologie. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Fin de citation. S'en réjouir ou s'en inquiéter ? Je soupçonne qu'à cette question, que Michel Pastoureau laisse en suspens, il a sa réponse personnelle. Voici donc le vert parmi toutes les couleurs.
Devant mon miroir ovale, en poudrant mon corps, dans ma loge, tantôt bleu, tantôt rouge, je revois au fond du miroir ovale, contemplant mon corps. Tantôt mauve, tantôt vert, toujours et encore. Je revois les feux qui dansent dans ses yeux, dans mes yeux. Je revois les feux changeant, reflets sur mon corps. Comme les feux qui dehors dansent, tantôt rouge, tantôt bleu. Lettres de néon immenses écrivant mon nom. Tantôt rouge, tantôt bleu, dans le ciel profond. Tantôt rouge, tantôt bleu, écrivant mon nom. Puis ce long trait sinueux, dessinant mon corps. Dans le ciel, tout en or long et langoureux. Il me disait, tu es dans ma vie, un petit arc-en-ciel. Comme je te trouve jolie, toute mauve irréelle. Il me disait des mots si tendres, tantôt mauve, tantôt bleu. Des mots si doux à entendre que j'en fermais les yeux. Maintenant devant mon miroir, quand je mets du rimmel, tantôt mauve, tantôt bleu, tantôt vert, je pleure. Au fond du miroir ovale, en mettant mes bas, tantôt mauve, tantôt vert, toujours je revois. Le petit feu clignote et danse, ça y est, c'est mon tour. Sur la scène, je m'avance en fermant les yeux. des couleurs en transparence dansent tout autour, tantôt rouge, tantôt bleu, mauve et irréel, tantôt mauve, tantôt vert, au cœur de la nuit, tantôt rouge, tantôt bleu, palpitant sans fin, et la chaleur de ses mains dans ces feux qui dansent, tantôt rouge, tantôt bleu, ah que nous étions bien. Les yeux fermés, je me balance. Comment vivre sans lui? Comment me passer de mots tendres, des mots d'amour heureux? Ces mots, je ne cesse de les entendre. Comment vivre sans lui? Ces mots si doux à entendre, et je ferme. Je vois les feux qui dansent tantôt rouge, tantôt bleu. Et je vois les feux qui dansent tantôt rouge, tantôt bleu, tantôt rouge, tantôt bleu.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson de Cyrus Bassiac, qui remonte à 1966, est interprétée par Jeanne Moreau. Elle s'appelle « Tantôt rouge, tantôt bleu ». Elle pourrait aussi s'appeler « Tantôt mauve, tantôt vert ». Voilà un chromatisme qui me paraît un bon départ pour notre conversation.
Voilà, il est difficile de parler d'une couleur toute seule. Le vert ne prend son sens que pour autant qu'il est associé ou opposé au rouge, au bleu, au noir, au jaune. Donc nous allons parler beaucoup du vert, mais un peu aussi des autres couleurs.
Dialectique ici avec la beauté, avec l'émotion, avec la nostalgie.
Oui, avec le rêve, avec la séduction des couleurs. À toute époque, l'homme a été attiré par les couleurs.
Même quand elles ne sont pas portées par Jeanne Moreau.
Voilà, Jeanne Moreau d'ailleurs qui elle-même porte l'habit vert, puisqu'elle est membre depuis quelques années de l'Académie des Beaux-Arts. Et cet habit qui est en fait vert et noir, noir apparemment vert. Mais donc on peut dire que Jeanne Moreau est devenue une femme verte.
J'observe que vous ne détestez pas les statistiques dans ce domaine souvent un peu mouvant de l'histoire des couleurs, puisque vous relevez que le vert aurait été depuis environ un siècle la couleur préférée d'une personne sur 5 ou 6, ce qui est peu comparé au bleu, une personne sur 2, mais mieux que toutes les autres couleurs. Il se trouve moins de 10% des personnes interrogées pour détester le vert. Nous voilà au cœur de la réalité compliquée des relations affectives et symboliques de l'homme avec les couleurs.
Oui, nous avons beaucoup d'enquêtes d'opinion comme cela. Quelle est votre couleur préférée? Quelle couleur détestez-vous? Et nous en avons depuis la fin du 19e siècle. Et ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que les résultats sont toujours les mêmes en Europe. Les mêmes pour les hommes et pour les femmes, les mêmes pour les différentes catégories socio-professionnelles. Le bleu, très loin en tête, 45-50% des réponses. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Et ensuite le vert, et puis le rouge, le noir, le jaune, le blanc viennent plus loin, et les demi-couleurs en quelque sorte plus loin encore. Donc malgré les changements de société, malgré les changements de lumière, de matière, etc., ça n'a pas beaucoup d'impact sur les préférences des Européens. Évidemment, c'est un temps relativement court, 150 ans. Si on se replonge dans des périodes anciennes, l'Antiquité par exemple, évidemment, on n'a pas d'enquête d'opinion, mais les résultats seraient très différents si on en avait.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire, effectivement, reculer, non sans avoir noté qu'aujourd'hui, enfin, au XXe siècle et au XXIe, parmi les personnes ennemies du vert, il s'agit toujours de vos sondages, la plupart disent en avoir peur. Le vert serait vénéneux, funeste et maléfique, avec de très vieilles superstitions.
Oui, le vert porte-malheur. C'est une croyance qui vient de loin, qui est bien attestée au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et qui est encore très présente dans nos sociétés occidentales contemporaines, notamment chez les femmes. Parmi les personnes qui se méfient du vert ou qui détestent cette couleur, qui pour rien au monde ne porterait du vert, le public féminin est très, très majoritaire.
Donc Jeanne Moreau fait exception. Revenons, comme vous nous l'annonciez, reculons, Michel Pastoureau, jusqu'à l'Antiquité. Certains disent, mais il me paraît que vous ne ratifiez pas absolument cela, que les Grecs, s'ils trouvaient que c'était une couleur peu présente, c'est parce qu'ils auraient un regard différent, quasiment physiologiquement.
Oui, pendant assez longtemps, du milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, historiens, philologues, archéologues, neurologues, constatant que les Grecs nommaient très rarement le vert et le bleu, on crut que les Grecs anciens étaient aveugles à ces deux couleurs. Et alors toutes sortes de théories se sont élaborées pour expliquer cette cécité au vert et au bleu, des éléments naturels, des fleurs, le ciel, la mer, l'eau ne sont jamais ni vert ni bleu chez les Grecs. Alors on a pensé que leur œil était moins développé que celui des Romains et des époques postérieures, qu'il y avait un problème de cône, de bâtonnet, de cécité, des polémiques extraordinaires, passionnantes à étudier aujourd'hui pour l'historien, mais qui sont retombées dans les années 1920. Aujourd'hui, on estime que si les Grecs nomment rarement la couleur verte, c'est parce que le vert occupe une place discrète dans leur vie quotidienne, dans la culture matérielle, dans le monde des symboles et dans la vie religieuse, et pas du tout parce qu'ils ne voient pas le vert. Entre nomination et perception, on n'est pas sur le même terrain. Donc on a abandonné aujourd'hui ces théories, mais de fait, le vert est peu présent dans la Grèce antique.
C'était la théorie de Nietzsche. Les Grecs voyaient la nature de façon différente de nous. Leur œil, il faut bien l'admettre, était aveugle au bleu et au vert. C'est bien l'idée que vous évoquez. Au lieu du bleu, on se demande comment Nietzsche le savait, au lieu du bleu, il voyait un brun sombre et au lieu du vert, un jaune pâle.
Oui, il reprend là des théories, notamment celle d'un ophtalmologue autrichien qui s'appelait Hugo Magnus, soulignant cette cécité des Grecs au vert. Et les théories de Magnus et puis la phrase de Nietzsche également seront reprises par des théoriciens nazis quelques temps plus tard, avec l'idée que les Germains, eux, nomment et voient le vert, donc ils sont supérieurs aux Grecs, la culture germanique primitive est bien plus développée que la culture grecque, etc., etc. Ce dossier historiographique est vraiment passionnant.
Nous voilà en pleine politique d'ores et déjà. Ce serait seulement à l'époque hellénistique, si je vous suis, qu'un nouveau mot serait apparu pour évoquer le vert, ce serait prasinos. Ça vient de la couleur du poireau.
Du poireau, oui, et désigne plutôt des verts foncés ou des verts bleutés. Le lexique grec ancien des couleurs est relativement pauvre et surtout imprécis. Un mot comme glaucos, par exemple, qui peut vouloir dire vert, mais peut vouloir dire aussi bleu, gris, parfois jaune. C'est la couleur de l'eau, c'est la couleur des yeux, c'est la couleur du miel, c'est la couleur de beaucoup de choses qui, pour nous, sont tout à fait chromatiquement autres. L'autre mot qui peut vouloir dire vert chloros, c'est une couleur très pâle, entre jaune, vert et gris. Bref, ce lexique est imprécis et au fond, l'arrivée du vert poireau stabilise un peu le vocabulaire.
Il nous est familier puisqu'aujourd'hui, on sait que le mérite agricole, une des rares décorations que De Gaulle n'avait pas supprimée en 1959 pour les fondre dans l'ordre du mérite, le mérite agricole s'appelle familièrement, c'est un petit ruban vert qu'on peut mettre à sa boutonnière, s'appelle familièrement le poireau.
Le poireau, d'ailleurs, entretient avec la couleur verte des rapports étroits et le jus de poireau a été pour les peintres pendant assez longtemps un moyen de faire un peu de couleur verte bon marché, mais une couleur peu saturée, une couleur qui tient mal. Il y a toujours eu des difficultés pour peindre en vert et pour teindre en vert, on va y revenir.
Les Romains sont en net progrès par rapport aux Grecs puisqu'ils associent la notion de vert, ça vient de viridis, à l'idée de force, à l'idée de virilité, vis, vir, vers le printemps, virga, la tige et éventuellement la verge, et peut-être même virtus, le courage.
Il y a toute une famille de mots latins autour de cette racine vir qui évoque cette idée de vigueur, de force, de sève qui monte, de croissance, et donc un mot de base en latin classique, viridis, qui occupe toute la gamme des nuances du vert. Donc c'est un progrès en effet par rapport à la langue grecque, et chez les Romains on maîtrise un peu mieux le vert que l'on soit peintre ou que l'on soit teinturier, mais c'est quand même une couleur que l'on n'aime pas beaucoup parce qu'aux yeux des Romains, comme le bleu, le vert, c'est surtout la couleur des barbares et spécialement des Germains. Donc, jusqu'à l'époque impériale, personne ne s'habille en vert.
Mais ensuite, Suétone nous dit que Néron aimait beaucoup le vert, en particulier le vert de l'émeraude.
Voilà, Néron est un personnage que l'on connaît assez bien parce que certains auteurs en parlent beaucoup, en général pour le dénigrer. La tendance actuelle est un peu à revaloriser Néron, qui a été trop discrédité.
D'ailleurs, dans la représentation actuelle de Britannicus au théâtre des Amandiers, il est interprété d'une façon en effet plus ambivalente que d'ordinaire et fort convaincante.
Voilà, c'est une des conquêtes de l'historiographie récente. Néron n'était pas aussi épouvantable qu'on l'a dit, ou que l'a dit Suétone. Et surtout, il aimait beaucoup la couleur verte, nous le savons, et c'est le seul empereur pour lequel d'ailleurs nous connaissons certains goûts en matière de couleurs. Il aimait s'habiller de vert, il avait une passion pour les émeraudes qu'il collectionnait. Il avait un goût personnel pour le poireau, qui avait des vertus à la fois aphrodisiaques et thérapeutiques.
Alors bon, ah oui, c'est toujours vrai ?
Pour les maladies de cœur, ça peut être vrai, oui. Et puis, c'est un purgatif, un digestif. Et puis, il se passionnait, bien sûr, pour les jeux du cirque et les jeux de l'hippodrome, les courses de chars. Et à l'hippodrome, il était du côté de l'écurie verte. À l'époque de Néron, il y a 4 écuries, la rouge, la blanche, la verte et la bleue.
Ce qui veut dire qu'on distinguait quand même le vert et le bleu.
Ah oui, les Romains distinguent très bien le vert et le bleu. Par la suite, d'ailleurs, il n'y aura plus que 2 grandes écuries dans les courses de chars, le vert et le bleu. Le bleu, c'est plutôt l'aristocratie, le vert, plutôt le peuple. Et Néron lui-même, démagogue, soutient le vert populaire.
Alors, si vous voulez bien, Michel Pastoureau, galopons un peu jusqu'au Moyen-Âge. Il y a une sorte de promotion, notamment parce que le vert devient une couleur liturgique, la couleur de l'espérance, et puis la couleur de l'enfance. Je ne me prive pas du plaisir de vous faire entendre le poème de Baudelaire, Mesta et Tirabunda, où il est question du vert paradis des amours enfantines. Il est ici interprété par Catherine Ferrand en 2002.
Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse? La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie. Comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin, le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine? L'innocent paradis plein de plaisirs furtifs.
Pureté morale, oui, innocence, nostalgie, enfance, beaucoup de composantes, n'est-ce pas, Michel Pastoureau, qui surgissent au fond au Moyen-Âge.
Là, le poème de Baudelaire a un passé, en fait, qui est extrêmement important, qui date du Moyen-Âge. Le vert, couleur de l'enfance, couleur de l'amour, couleur du paradis, couleur de l'espérance. On trouve tout cela aux environs de l'an 1000 et après l'an 1000 en Occident. Donc c'est un changement assez important par rapport à ce qui se passait à l'époque romaine où le vert était d'une part discret dans la vie quotidienne et plutôt déconsidéré sur le plan symbolique, c'était la couleur des barbares. Mais les barbares sont entrés dans l'Empire romain, ont imposé leurs pratiques, leurs codes et leurs systèmes de valeurs lentement pendant le Haut Moyen-Âge. Et donc au Moyen-Âge central, le vert devient une couleur appréciée, une couleur courtoise, une couleur chevaleresque. Il est omniprésent dans les textes littéraires littéraire, les romans de chevalerie, les chansons de geste. Et puis, dans les images, dans les miniatures, dans les vitraux, on voit beaucoup de cas où ce vers évoque la courtoisie, les relations entre les hommes et les femmes. Un domaine particulier, c'est le tournoi. Le tournoi se déroule toujours dans un environnement vert, soit qu'il soit celui de la nature, de la végétation, soit plus tard en ville, on reconstitue un cadre vert pour organiser des joutes et des tournois. C'est une couleur de spectacle, c'est une couleur fortement admirée, aimée des dames. Et elle fait couple avec la couleur rouge. Toutes les deux évoquent l'amour. La couleur verte, c'est l'amour naissant. Pas encore l'amour enfantin, mais ça n'est pas tellement loin. Mais c'est surtout l'amour à ses débuts. Puis ensuite, c'est l'amour passion ou l'amour érotique. Alors ça, c'est la couleur rouge. Et à l'opposé, il y a le bleu en tant que couleur de l'amour très sage, fidèle.
Vous évoquez la jeunesse, on peut distinguer des couleurs correspondant en fait aux différents âges de la vie, la prime enfance, l'enfance, c'est ce que nous appellerions l'adolescence, etc.
Oui, les âges de la vie qui peuvent être 4, 5, 7 selon les auteurs, peuvent être associés à des couleurs. Et alors donc la petite enfance serait plutôt le blanc, puis ensuite le vert, et puis l'âge mûr ce serait le rouge, puis le bleu comme couleur de la sagesse d'une certaine vieillesse, et enfin le noir pour le déclin de la vie. C'est la classification la plus courante. De la même façon, les saisons peuvent être associées au Moyen-Âge aux couleurs. Et naturellement, le vert, c'est la couleur du printemps, alors que l'automne est jaune, l'hiver est, selon les cas, blanc ou noir, et l'été, lui, est rouge.
Vous évoquez les chansons de geste. Le personnage de Tristan, à cet égard, a beaucoup de choses à nous dire sur le vert.
Oui, c'est peut-être le héros vert par excellence au Moyen-Âge central. C'est d'ailleurs le héros littéraire préféré des populations pendant une bonne partie du Moyen-Âge. La légende de Tristan Iseut est connue par de nombreux textes et surtout de nombreuses images. Et on est attendri par ces deux amants qui sont au fond victimes du destin. D'ailleurs, le vert, c'est la couleur du destin, de destinée.
Vous pensez à Iseut?
Je pense à Iseut, bien sûr. Et donc, Tristan, lui, il est vert à la fois parce qu'il est chevalier, il est tournoyeur, il est chasseur, il a du vert sur ses habits, mais il doit aussi se cacher. C'est un rebelle, il va s'enforester, comme dit joliment l'ancien français, c'est-à-dire se réfugier dans la forêt, couleur verte. Et puis, il se déguise en jongleur. Les jongleurs sont souvent vêtus de vert, et ainsi de suite. Bref, c'est un homme qui entretient avec la couleur verte des rapports très étroits.
C'est le temps où l'Église catholique elle-même fait la promotion de la couleur verte, l'innocent paradis. Je ne sais pas si c'est une allusion au très grand pape, peut-être le plus grand pape du Moyen-Âge, que fut Innocent III au début du XIIIe siècle et qui a joué dans notre histoire de la couleur verte un rôle important.
Oui, Innocent III, c'est le plus grand pape du Moyen-Âge, peut-être le plus grand pape de toute l'histoire de la papauté. Et avant même d'être pape, seulement cardinal, il a laissé un traité sur la messe qui est devenu un texte constituant une autorité. Et il explique sa position sur les couleurs liturgiques qui n'apparaissent que lentement. Il faut attendre vraiment l'an 1000 pour qu'il y ait un système qui commence à se diffuser dans tous les diocèses de la chrétienté romaine. Et à l'époque d'Innocent III, il y a 4 couleurs qui sont utilisées. Le rouge, le blanc, le noir et le vert, qui est la 4e couleur. Et Innocent III nous dit le vert, c'est une couleur moyenne entre blanc, noir et rouge. Il en fait la couleur du milieu. Et c'est la couleur, dans le culte chrétien, des jours ordinaires, pas des fêtes principales qui sont rouges ou blanches, selon qu'on a affaire aux fêtes de la Vierge, du Christ ou de l'Esprit-Saint, ni au noir pour les moments d'affliction et de pénitence. Pour les jours et les fêtes ordinaires, le vert. Et ça contribue à une promotion certaine de la couleur verte, alors que le jaune et le bleu, qui ne sont pas utilisés dans le système des couleurs liturgiques, ne bénéficient pas d'une telle promotion.
Et comme souvent, on retrouve la couleur dont nous parlons, le vert, à différentes hauteurs, au plus élevé de la liturgie, mais aussi au plus commun des superstitions. Je vais vous faire entendre à ce propos un extrait du film de Romer. Je sais que vous l'avez conseillé, Romer, quand il s'intéressait à Perceval. Mais là, il s'agit d'un autre film de 1986 qui s'appelle « Le rayon vert ». Et on voit deux jeunes femmes discuter de notre chère couleur verte.
T'as aucune superstition. Tu crois pas à la chance, tu crois pas aux cartes, tu crois pas aux astres, rien.
Ouais, moi, je crois à des superstitions personnelles.
Je peux croire à une chose, je peux croire aux cartes à jouer, aux petites cartes à jouer qu'on trouve dans la rue. Enfin, moi, je trouve des cartes à jouer dans la rue.
Tu trouves souvent?
J'en trouve parfois, à des moments. D'ailleurs, je m'y attends pas du tout et je marche et je trouve une carte. Et ça signifie quelque chose à chaque fois. L'autre fois, on a un chez ma sœur, j'ai trouvé quoi? Une petite dame de pique. Voilà, la dame de pique, c'est mauvais.
Ah oui.
Tu connais, toi, les significations?
Quelques-unes, oui.
Donc, en allant chez ma sœur, tu vois, je suis attirée par une... Et en plus, la carte était verte. Et ce qui est vachement bizarre, c'est que j'ai rencontré un médium, un copain à moi, qui m'a dit que le vert serait ma couleur de l'année. Et c'est vachement bizarre, parce que moi, depuis ça, enfin, c'est peut-être parce que je le remarque, hein, je rencontre toujours des petites choses vertes, tu vois. Alors là, je marche pour aller chez ma sœur, qu'est-ce que je vois pas? Une petite carte verte, tu vois, prenne un poteau vert, et moi, quoi, j'étais habillée en vert.
Déjà, le si ça se trouve, c'est un petit homme vert que tu vas retrouver.
Non, mais c'est la couleur de l'espérance, hein. Alors, c'est une bonne année.
Le petit homme vert, Michel Pastoureau, c'est déjà le martien.
Voilà, notre martien, petit homme vert, en fait, il a des ancêtres qui remontent au Moyen-Âge, et surtout à la fin du Moyen-Âge, où le vert commence à se dévaloriser de nouveau. Donc l'histoire de la couleur verte, hein, c'est une histoire de haut et de bas continue. Et à la fin du Moyen-Âge, le vert se dévalorise, et c'est la couleur du diable, et surtout des créatures du diable. Tout un bestiaire vert l'accompagne, le dragon, le crocodile, les grenouilles, les crapauds, les serpents. Tout ça, c'est vert dans les textes et dans les images.
On arrive à la vase, toutes ces couleurs un peu ignoble.
Le verdâtre plus encore que le vert. Et donc les êtres étranges, inquiétants, comme nos martiens actuels, sont déjà dans le monde du verdâtre. Donc c'est une couleur qui commence à faire peur et surtout qui passe pour porter malheur. Les sorcières elles-mêmes sont des femmes vertes. Elles ont les yeux verts, des habits verts, parfois même la peau verte. Et on s'en méfie. Donc le vert entre dans une période où il cesse d'être présent abondamment dans la vie quotidienne. On s'en méfie et c'est une idée, nous l'avons vu en commençant, qui a traversé les siècles, puisque aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent que le vert porte malheur.
Est-ce que ce n'est pas parce que le vert, en tant que couleur concrète pour les teinturiers et les peintres, est assez instable, on a peine à le saisir?
Oui. Je pense que c'est une des raisons principales de cette méfiance envers le vert, couleur qui ne tient pas, couleur changeante. En peinture et en teinture, on sait fabriquer le vert, mais on a du mal à le fixer. Et donc chimiquement instable, le vert symboliquement a été associé à tout ce qui est instable. C'est assez intéressant pour l'historien, ce rapport entre le chimique et le symbolique. Donc c'est la couleur de tout ce qui tourne, qui change, qui évolue, l'enfance bien sûr, l'amour, l'espérance, la chance, le jeu, l'argent, le hasard, tout ça c'est de près ou de loin associé à la couleur verte. Ça peut être pris en bonne part, mais plus souvent en mauvaise part.
Là vous nous parlez de l'Occident chrétien, parce que si on considère dans le même temps l'islam, on voit le vert s'installer comme couleur privilégiée en termes psychologiques, en termes politiques, mais pas tout de suite, contrairement à ce qu'on croit souvent.
Voilà, pas tout de suite. Le vert, qui est devenu la couleur religieuse de l'islam à la fin de notre Moyen-Âge, au départ est la couleur de la dynastie descendant de Mahomet. La tradition veut que Mahomet lui-même ait une affection particulière pour la couleur verte, qu'il portait turban, étendard et peut-être vêtements verts. Puis de cette couleur dynastique, notamment chez les Fatimides en Égypte, descendance directe du prophète, on passe à la couleur donc dynastique, puis religieuse lentement. Le vert devient la couleur de toutes les tendances de l'islam et couleur sacrée. Les Corans commencent à être dotés de reliures ou de couvertures vertes. On chasse le vert, c'est intéressant, on chasse le vert des tapis dans le monde musulman parce qu'on ne doit pas marcher sur une couleur sacrée. C'est un cas intéressant parce que dans beaucoup de sociétés de la planète, toutes les couleurs sont ambivalentes, encore aujourd'hui, avec les bons et les mauvais aspects. Eh bien, en terre d'islam, le vert n'est jamais pris en mauvaise part. C'est toujours une couleur positive et bénéfique. C'est la couleur du paradis pour les musulmans.
Alors après ce détour qui me paraissait nécessaire, revenons à la France, à l'Occident, et à cette évolution que l'on constate à partir du début de l'époque classique. Le XVIe et surtout le XVIIe siècle voit le vert décidément déconsidéré. Par exemple, les précieuses Madame de Rambouillet détestaient le vert.
Oui, à l'hôtel de Rambouillet, où les conversations se passent dans la chambre bleue.
Épouvantablement fâcheux, disait-elle.
Voilà, les Les précieux et les précieuses ont un goût immodéré pour les adverbes de manière, et c'est toujours très superlatif et excessif. Et le verre est détesté et n'a pas le droit d'entrer à l'hôtel de Rambouillet. C'est une couleur qui est infâme. Ça n'est pas un cas isolé, hein. Nous sommes à une époque où le verre n'est plus guère présent dans la vie quotidienne, même si quelques rois comme Henri III ou Louis XIII en France ont eu un goût personnel pour la couleur verte.
Un cas de désaccord avec Richelieu, nous dites-vous, parce que Richelieu, au contraire, la détestait, contrairement à son roi.
Il s'inquiétait de ce que Louis XIII porte du vert, il avait l'idée que ça allait lui porter malheur.
Ça n'a pas empêché que Richelieu triomphe à la journée des dupes, mais il s'en est fallu de peu, si je comprends bien.
Oui, puis lui, c'est l'homme rouge, donc le vert, ça n'est pas son monde. Mais ça montre qu'un cardinal, un homme d'église, a aussi des superstitions à l'horizon des années 1630-1640. Mais c'est un témoignage important pour montrer comment le vert est en recul en ce milieu du XVIIe siècle.
Il devient roturier, rustre.
Il devient couleur des roturiers, des paysans, on ne l'aime pas, et à Versailles, par exemple, presque rien n'est vert au début. D'où des regards portés sur ceux qui font écart et qui montrent un goût pour la couleur verte. Et c'est le cas, semble-t-il, de Molière, qui dans plusieurs de ses pièces soit met en scène des personnages vêtus de vert, le texte peut le dire expressément, soit lui-même interprète un rôle en habit vert. La tradition veut que Molière soit mort alors qu'il portait du vert, ce qui était déjà à son époque une sorte de tabou sur les scènes de théâtre. À l'époque de Shakespeare, il y a déjà ce tabou du vert, début du XVIIe siècle. La raison probable à l'origine vient de ce qu'on a du mal à teindre en vert. Et donc pour les comédiens qui, pour une raison ou pour une autre, doivent porter du vert sur la scène, on ne porte pas un habit teint, mais un habit peint. On peint l'étoffe avec ce qu'on appellerait, nous, du vert de gris, c'est-à-dire un pigment facile à obtenir, bon marché, mais extrêmement poison. Et donc, il y a dû y avoir des accidents et des morts. Je crois sincèrement que la tradition du vert qui porte malheur au théâtre vient de ces habits verts qui ne sont pas teints, mais peints avec du verdé, comme on dit, du vert de gris.
Et bien, sur cette interdiction du vert sur la scène, en 1993, Jacques Lassalle, qui était administrateur de la Comédie française, s'exprime de la sorte dans Le Bon Plaisir.
Vous aimez le rouge, vous qui portez du vert?
J'aime beaucoup le rouge et c'est la couleur du théâtre. Le vert est plus fortuit et il n'est pas comme on pourrait le craindre, provocation, puisque, on le sait, dans cette maison, sur la scène en tout cas, le vert est pratiquement interdit, puisque Molière, Alceste, l'homme au ruban vert, il n'y a que lui qui pouvait porter du vert. Voilà. L'interdit s'est aménagé. Mais c'est vrai que dans cette maison, si le rouge et l'or sont les couleurs premières, le vert reste une couleur relativement suspecte. C'est tout à fait par hasard si je porte du vert aujourd'hui.
Le vert s'infiltre très bien entre le rouge et l'or.
C'est deux hasards l'un sur l'autre. Je précise simplement que le vert en question est le vert d'un costume que je considère un peu comme un costume de travail et qui me permet de vivre ensemble sans trop de contradictions la partie un peu officielle, administrative de ma fonction et la partie plateau. Je sais dans ce costume vert les jours où le temps des répétitions est important, j'essaie de concilier, voilà, d'être présentable dans mon bureau et tout à fait opérationnel sur le plateau.
C'est Jean Dève qui interviewait ici Jacques Lassalle. C'est le temps aussi, ce XVIIe siècle, où Alceste, par exemple, est l'homme au ruban vert, et c'est assez dépréciatif dans l'esprit notamment de Célimène.
Oui, voilà, dans Le Misanthrope, Molière met en scène un personnage qui est asocial. C'est un noble, c'est un mondain, il est amoureux de Célimène, mais il est contre toute convention et contrainte sociale, et il porte des rubans verts, nous dit le texte de Molière, ce qui est extravagant. Le vert n'est plus du tout à la mode. Donc il est à la fois ridicule, transgressif, vieux jeu, et puis surtout misanthrope, comme dit le titre de la pièce. Et la couleur verte fait figure non seulement d'attributs, mais même d'emblèmes et de symboles pour mettre en scène ce personnage.
Curieusement, cela renvoie d'ailleurs à Don Quichotte, qui est l'extrême point d'une chevalerie en voie de disparition et qui lui-même accroche, serre son armure avec des rubans verts.
Voilà, presque un siècle plus tôt, on a chez Cervantes la même idée, c'est-à-dire que le chevalier à la triste figure accroche les différentes parties de son armure avec des rubans verts et ça n'a rien de valorisant. Au contraire, sous la plume de Cervantes, ça a quelque chose de ridicule. Don Quichotte, comme Alceste, sont des personnages dont on rit rien que parce qu'ils ont cette pratique et ce goût pour la couleur verte.
Le XVIIIe siècle voit une certaine résurgence de la dignité du vert, mais dans certaines limites.
Oui, il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Entre-temps, le vert s'était déprécié chez les artistes et chez les hommes de science. On avait reclassé les couleurs tout au long du XVIIe siècle et distingué des couleurs premières et des couleurs secondes, des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, comme nous dirions aujourd'hui. Le rouge, le jaune, le bleu sont des couleurs premières et le vert, l'orangé, le violet, des couleurs du deuxième rang, en quelque sorte. Ça contribue à dévaloriser la couleur verte, notamment chez les artistes, et ça dure longtemps, cette idée, le vert n'est pas une couleur primaire. Et on l'obtient par mélange. Il y a d'ailleurs chez les peintres des débats. Est-ce qu'un grand peintre a le droit de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert? On l'a fait sans doute assez tôt, mais certains artistes ont l'idée que c'est indigne d'un grand peintre. À l'Académie royale de peinture, par exemple, vers 1740, un peintre comme Oudry se scandalise que certains de ses collègues mélangent du jaune et du bleu pour faire du vert. Ça lui semble indigne.
Pourtant, il y a eu le vert véronèse.
Voilà, alors ce que nous appelons vert véronèse apparaît un peu après la mort de Véronèse. Mais Véronèse est quand même, comme tous les Vénitiens, un grand artiste du vert. Titien, Giorgione surtout, peigne des vers magnifiques que les Florentins ne savent pas faire. Mais au XVIIIe siècle, donc, il faut attendre vraiment la période pré-romantique pour que le vert se revalorise et devienne, au fond, définitivement, à partir de cette date, 1760-80, la couleur de la nature.
Donc vous direz que la concordance du vert tel que nous le connaissons dans notre sensibilité d'aujourd'hui remonte en fait au XVIIIe siècle.
Oui, pour nous, la nature est verte, mais ça n'est pas vrai pour les Romains, ni pour les gens du Moyen-Âge et même de la Renaissance. La nature, elle a beaucoup de couleurs, parce que la nature, ça n'est pas seulement la végétation. La végétation, c'est un petit élément de la nature. Mais la nature, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est le feu, c'est les quatre éléments. Donc la nature a au moins quatre couleurs. Et puis dans le courant du XVIIIe siècle, et surtout à l'époque romantique, nature et végétation finissent par devenir synonymes, et donc la couleur du monde végétal, le vert, devient aussi la couleur de la nature, et la seule couleur de la nature, idée sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui très fortement.
Le cardinal de Bernis, qui n'était pas très, très écologiste au sens d'aujourd'hui, disait qu'il n'aimait la nature que dans les tableaux qu'il mettait au mur de son salon. Et encore, il mêlait parfois ses peintures à des peintures de la Rome antique.
Mais il y a quand même un renouveau de la peinture de paysage dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui bien sûr profite à la couleur verte, d'autant que le tabou qui interdit de mélanger du jaune et du bleu pour faire du vert tombe complètement à cette époque. Et donc on sait faire des verts nouveaux, des verts magnifiques, des verts diversifiés. Le romantisme bénéficie beaucoup à la couleur verte, au point que cette couleur devient également à la mode dans l'ameublement et plus tard dans le vêtement, sous le Directoire en France, et plus encore sous le Consulat et l'Empire.
Il y a un vert empire.
Il y a un vert empire que l'on marie avec des ors et des rouges violents. L'idée veut que Napoléon lui-même ait un goût personnel pour la couleur verte, et beaucoup de témoignages vont dans ce sens. Non pas tant pour s'habiller que pour s'entourer de vert.
Sa redingote n'était pas verte ?
La redingote était plutôt grise ou gris-vert.
Gris-vert, oui.
Gris-vert, voilà. Mais à Sainte-Hélène, le cadre de vie de Napoléon était tendu de vert. Une légende veut d'ailleurs qu'il ait été empoisonné. On a retrouvé dans ses cheveux et sous ses ongles de l'arsenic. ce n'est pas dû à un empoisonnement volontaire de la part des personnes qui l'entouraient ou des Anglais qui le gardaient. C'est probablement de l'arsenic qui vient des papiers peints et des tentures vertes de sa maison de Longwood, parce que depuis les années 1810, on savait fabriquer un magnifique verre, dit verre de Schweinfurt, la ville allemande d'origine de ce procédé chimique, pour faire des tentures et des papiers peints de couleur verte. Et il est probable que ces vapeurs d'arsenic qui, sous le climat humide de Sainte-Hélène, envahissaient les pièces, ont nui à la santé de l'empereur, ça c'est certain.
C'est d'ailleurs à l'époque que les chimistes s'emparent de notre sujet, et un peu plus tard, Goethe, au début du romantisme, écrit un traité des couleurs, à propos des couleurs et des classes sociales.
Voilà, ce traité des couleurs de Goethe, qui paraît en 1810, est en partie une réaction contre les théories des physiciens, et notamment de Newton. Goethe, qui se voulait homme de science, toute sa vie il s'est proclamé homme de science, refusait d'accepter l'idée newtonienne selon laquelle la lumière blanche du soleil se disperse en rayons colorés. Pour lui, ça n'était pas possible.
C'est Newton qui avait fixé la fameuse énumération que nous avons appris enfant, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, où le vert est au milieu.
Voilà, c'est le spectre, le vert est au milieu, et on peut reconstituer la couleur blanche en mélangeant physiquement ces sept couleurs. Goethe n'était pas d'accord.
Et alors Goethe se rebiffe.
Il se rebiffe, et dans son traité, il y a une partie scientifique qui, évidemment, a beaucoup vieilli, mais il y a une partie sociale et anthropologique, presque, qui est encore d'actualité. Par exemple, Goethe pose cette question extraordinaire. Est-ce qu'une robe rouge est encore rouge quand personne ne la regarde? Et il répond non. Et je répondrai non avec lui. Mais ça pose, au fond, tous les problèmes de la couleur. Que la couleur existe quand elle n'est pas regardée. Un physicien dira oui, mais les sciences humaines répondront non. Ça pose des problèmes considérables. Et c'est pour ça que ce traité de Goethe est tout à fait passionnant. Il énumère un certain nombre de faits de son époque sur les pratiques vestimentaires et les pratiques d'ameublement en matière de couleur. Il pense que le vert est une couleur reposante, qu'il recommande pour les pièces où l'on se tient toute la journée, voire pour les chambres à coucher. Lui-même, à Weimar, dort dans une chambre verte. Il y est mort, d'ailleurs, en prononçant ces quelques mots, plus de lumière, qui sont restés célèbres. Mais son opinion n'est pas partagée par tout le monde, parce que la reine Victoria, qui règne si longtemps, est une grande ennemie de la couleur verte. Elle en a extrêmement peur, et elle l'a fait chasser de tous les palais royaux, notamment de Buckingham.
Il est curieux d'observer, c'est une sorte d'uchronie, histoire-fiction, que le vert aurait pu être la couleur de la révolution et des révolutionnaires.
Tout à fait. Et le drapeau français aurait peut-être pu être entièrement vert, comme celui de l'Arabie saoudite, par exemple. Le point de départ, c'est la journée du 12 juillet 1789, quand Camille Desmoulins, dans les jardins du Palais Royal, appelle la foule à l'insurrection. Et comme signe du ralliement des partisans des idées nouvelles, il propose une feuille de tilleul qu'il cueille dans les célèbres tilleuls du Palais Royal. Il l'accroche à son chapeau. Il invite tous les partisans à le suivre et à se doter d'une cocarde verte, sous forme de tilleul au départ, se diriger vers les Invalides pour prendre des armes. Mais en chemin, les insurgés apprennent que le vert, c'est la couleur de la livrée du comte d'Artois, le futur Charles X, frère de Louis XVI, qui est vraiment le personnage le plus hostile aux idées nouvelles. Donc on a abandonné, avant même la prise de la Bastille, deux jours plus tard, on a abandonné cette cocarde verte. Mais si le comte d'Artois n'avait pas eu de livrée verte, il est probable que la cocarde verte serait devenue celle des patriotes, puis aurait donné naissance au pavillon, puis au drapeau tricolore monochrome, alors français. Mais malheureusement, c'est le bleu-blanc-rouge qui a pris la place du vert, malheureusement ou heureusement. Ce vert, en 1789, c'est la couleur de la liberté. C'est la couleur des idées progressistes en marche. C'est une idée vraiment nouvelle à la fin du XVIIIe siècle.
D'ailleurs, avec le recul, on peut s'interroger sur le lien du vert avec la liberté qu'implique l'invention des feux verts en face des feux rouges. Il est curieux de rappeler d'où cela vient.
Ça vient de théories scientifiques qui font du vert la couleur complémentaire du rouge, donc le contraire du rouge en quelque sorte. Et alors si le rouge, dans de nombreux domaines autour des années 1800, est la couleur de l'interdiction, eh bien sa couleur contraire, le vert, naturellement devient la couleur de la permission.
Ça vient des signaux maritimes en fait.
Ça vient des signaux maritimes au départ et la signalisation maritime qui se met en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle va influencer la signalisation ferroviaire au XIXe siècle, puis la signalisation routière.
Je note que c'est en novembre 1868, au coin de Palace Yard et de Bridge Street, qu'à Londres sont installés les plus anciens feux de circulation bicolore.
Bicolore, voilà, alterné. Donc rouge, on s'arrête, vert, on passe. Ça va se développer en Allemagne, aux États-Unis, en France, à la veille de la Première Guerre mondiale en ville. Et puis, ça va donner naissance au système que nous connaissons. Et cela finit par faire admettre l'idée que le vert et le rouge sont des contraires. Et donc, le rouge, couleur de l'interdiction, le vert, couleur de la permission, donc de la liberté. Et tout un champ nouveau s'ouvre à la couleur verte.
Oui, alors ça, c'est très positif. Et en même temps, à la fin du 19e siècle, le vert témoigne qu'il est une couleur encore incertaine, notamment d'un point de vue moral. Et on retrouve cette inquiétude que provoquent souvent les femmes aux yeux verts, à l'exception naturellement des Irlandaises rousses. Écoutez cette chanson de Lebas qui remonte à 1913, interprétée par le fameux Adolphe Béra, qui s'appelle « La femme aux yeux verts ».
Parmi les fleurs, la musique et les serpentins, il rencontra Marion la brune et qui lui dit à toi mon cœur et ma fortune. Grand fou disait tous ses copains, ta Marion c'est une gueuse, on le sait bien. Méfie-toi d'elle, elle est cruelle, brise à jamais sans hésiter ce maudit lien. C'est la femme aux yeux verts dont les regards pervers percent la folie. Malheur au pauvre fou dont le cœur est jaloux. Elle n'aime que l'argent, ruine tous ses amants. Sa vie c'est l'orgie. Rien ne trouble la chair de la femme aux yeux verts. Mais n'écoutant que son amour, à ses parents le garçon dit un certain jour: c'est Marion, seule que j'aime, je l'épouserai car c'est ma volonté suprême. Quoi dit le père en menaçant? Sors d'ici et ne compte plus sur mon argent. Mais quelle abîme, horrible crime! Le fils frappa mort, le père dit tombant, disons. C'est la femme aux yeux verts dans les regards pervers. Perce la folie, malheur au pauvre fou, dont le cœur est jaloux. Elle n'aime que l'argent, ruine tous ses amants. Sa vie, c'est l'orgie, rien ne trouble la chair de la femme.
Méfiez-vous, Michel Pastoureau, de la femme aux yeux verts. Vous n'avez peut-être pas attendu d'ailleurs mon conseil pour le faire.
Ma femme a les yeux verts, mais... mais c'est vrai que dans la longue durée, on s'est souvent méfié des femmes aux yeux verts. L'expression « yeux verts, yeux de vipère » apparaît quelque part dans le courant du XVIIe siècle. Mais dès le Moyen-Âge, les yeux verts sont les yeux des sorcières.
Vous le saviez avant votre mariage ?
Je le savais avant mon mariage, mais ça ne m'a pas empêché d'épouser une femme aux yeux verts. Et il y a un rapport d'ailleurs plus général entre la mauvaise vie des femmes et la couleur verte. Les prostituées ont souvent eu une pièce d'étoffe verte, des bas verts au 19e siècle et encore au début du 20e. Les bas verts sont les bas des prostituées. Le peintre autrichien Egon Schiele a peint plusieurs femmes professionnelles, si je puis dire, de la débauche avec des bas verts.
Et en plus, donc, très souvent dans les cafés parisien consommant la fée verte, c'est-à-dire l'absinthe.
Alors c'est un autre danger du verre, voilà, c'est l'alcool, c'est l'absinthe, c'est cette fée verte qui occupe quand même un terrain dans les textes littéraires et la création artistique considérable entre les années 1860 et 1920.
J'observe que vous évoquez la peinture, il faut probablement dire quelque chose sur le verre chez les impressionnistes en particulier, peut-être dans la suite d'ailleurs d'un certain nombre de travaux de chimistes.
Voilà, les peintres de la seconde moitié du XIXe siècle, pour beaucoup, suivent les théories des hommes de science, et notamment de cet immense homme de science qui est Eugène Chevreul, qui écrit dans les années 1830 un ouvrage célèbre de la loi du contraste simultané, où il énonce un certain nombre de principes et de règles concernant les couleurs entre elles, leur perception.
Toujours valide ?
Partiellement valide, en tout cas pour les chimistes et pour les physiciens. Évidemment, les sciences humaines ont un point de vue un peu différent, parfois difficile de concilier sciences dures et sciences humaines. Mais en tout cas, les artistes l'ont fait, eux, avant et après 1900. Et certains pensent qu'en effet, le vert est une couleur secondaire, une couleur de deuxième rang, qu'elle n'a pas sa place dans les tableaux. Ça dure longtemps. Par exemple, un peintre comme Mondrian, dans sa période abstraite, ne met jamais de vert dans sa peinture.
Kandinsky aussi détestait le vert.
Alors Kandinsky a écrit des textes étonnants sur les couleurs. Et dans l'un d'entre eux, du Spirituel dans l'art, 1912, il a une phrase terrible contre la couleur verte. Pour lui, elle est immobile et il la compare à une grosse vache qui rumine sans bouger. C'est assez étonnant comme comparaison. Mais il y a des positions inverses. Les impressionnistes qui peignent en plein air et qui peignent souvent des paysages ont un goût très fort pour la couleur verte. Souvent, d'ailleurs, ils juxtaposent du jaune et du bleu. Pas de vert sur la toile, mais c'est l'œil, en percevant les petits points bleus et jaunes, qui reconstitue le vert. C'est le fameux mélange optique venu de la science, mais pratiqué par les peintres, et notamment plus tard par les peintres divisionnistes, par Sisley, Seurat, Signac et quelques autres.
J'observe que Kandinsky compare en effet le vert à une grosse vache, pleine de santé, couchée, figée, etc., mais aussi du même coup à la bourgeoisie. La bourgeoisie, élément immobile, satisfait de lui-même, limité dans toutes les directions. Il faut dire que c'est le temps où, un peu sous l'influence du protestantisme d'ailleurs, mais pas seulement, la bourgeoisie, du côté des hommes en tout cas, refuse les couleurs.
Oui, il y a une méfiance envers les couleurs vives dans l'Europe protestante, les couleurs qui se remarquent trop, donc on recherche des gris, des bruns, des noirs et des blancs bien sûr, des bleus et des verts très éteints. Et dans l'Allemagne du XIXe siècle, les bourgeois s'habillent assez fréquemment de ces verts, de ces gris-verts qui semblent à Kandinsky immobiles. Goethe disait déjà d'ailleurs que le vert était la couleur des bourgeois pour le vêtement, et donc c'est encore vrai à la veille de la Première Guerre mondiale dans toute l'Europe de tradition allemande.
Le vert ressurgit à la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, comme une couleur plus positive, portée notamment par le combat écologiste, Greenpeace, la paix verte. Et je voudrais vous faire entendre un document assez curieux, qui est le discours, un extrait du discours de réception du peintre Georges Mathieu à l'Académie des Beaux-Arts, le 26 janvier 1971. Non sans quelques grandiloquence, à vrai dire, vous en jugerez. Mathieu rend au vert l'hommage que voici.
Il faut briser la muraille du déterminisme, dit Pierre-Emmanuel. Mais il faut surtout rendre à l'homme la liberté de son présent et de son devenir. La liberté de créer sa vie, d'en être l'artisan et, si possible, l'artiste. En d'autres mots, il faut recolorer nos esprits et nos âmes de couleur verte, qui est à la fois celle du cœur et de l'espérance et de l'art. Soyons encore plus clairs. Devant cet Hiroshima, devant tous nos mythes écroulés, devant toutes nos valeurs balayées, nous avons la tâche prométhéenne de tout réinventer, de tout refaire, de tout reconstruire. Fabuleuse aventure où la vie authentique, subjective et spontanée prépare de nouvelles assomptions à la lumière verte de la régénération spirituelle, à la lumière verte des forces inconscientes et irrationnelles, à la lumière verte des victoires, des triomphes et des prophètes. Et ne l'oublions pas, le ver vivant du végétal capte les radiations rouges de l'énergie solaire pour la transformer en énergie de qualité supérieure. Puissent nos rameaux verts n'être pas seulement les garants de l'immortalité comme l'affirmaient les disciples d'Isis, puissent-ils rendre respirable l'air atmosphérique et nous garantir contre la pollution des esprits et des nuisances idéologiques, comme les appelle si joliment Raymond Rurière.
Je rappelle que le peintre Mathieu était vêtu d'un habit vert puisqu'il entrait à l'Institut. Je ne trahis rien, je pense, Michel Pastoureau, en disant qu'en écoutant cette archive, vous aviez un peu la tentation de sourire.
C'est étonnant d'ailleurs parce que dans la peinture de Georges Mathieu, le vert est très très peu présent. Mais donc c'est pour la circonstance, l'habit vert, vert et or, vert, or et noir des membres de l'Institut.
Lumière verte de la régénération spirituelle.
Voilà, c'est peut-être un hommage à l'Institut tout simplement. Mais en tout cas, cela quand même se met en écho à la couleur verte qui va sauver le monde au XXIe siècle par le biais de l'écologie politique et l'idéologie qui tourne autour. Depuis environ un siècle, on a pris conscience qu'on était allé trop loin dans la destruction de la nature. On a commencé par réintroduire la nature en ville à la fin du 19e au début du 20e siècle.
Les espaces verts,
les parcs, les jardins. La ville a souffert cruellement pendant longtemps de verdure, donc on est allé dans l'autre sens. Et par extension, cela a contribué à valoriser la couleur verte, à en faire une couleur ayant des rapports étroits avec la santé. Pensons aux pharmacies, à leur croix verte, aux champs d'hôpitaux, aux tenues des chirurgiens et au cadre des salles opératoires où la couleur verte a à voir avec le monde médical. Pensons au sport aussi, qui a des grands rapports avec la couleur verte, notamment par les surfaces sur lesquelles se déroulent les parties. Ça peut être de l'herbe, mais ça peut être aussi les tables de ping-pong, par exemple, qui pourraient très bien ne pas être vertes, mais elles sont vertes parce que sur une surface verte, il y a l'enjeu d'une partie qui se décide. Il y a un destin, exactement comme sur les tapis verts des joueurs de cartes ou de billard, ou sur les tapis verts des conseils d'administration, où se décide le sort d'une entreprise.
En somme, on voit bien, et c'est vérifié ces jours-ci, avec, disons, les tumultes qui entourent les relations entre les écologistes et le Parti socialiste au gouvernement, j'en parlais en commençant, on voit décidément le vert redevenir ce qui n'avait plus guère été depuis l'Antiquité romaine ou byzantine, c'est-à-dire une couleur idéologique et politique.
Une couleur politique, oui. Depuis les jeux de l'hippodrome et les crises politiques à Byzance pendant le très haut Moyen-Âge, on n'avait plus vu, en effet, ce vert politique. On avait le vert couleur du destin. Les tournois médiévaux et les compétitions sportives d'aujourd'hui ont le même rapport, au fond, à la couleur verte, couleur d'un enjeu, couleur d'un sort qui se décide exactement sur les tapis verts des conseils d'administration. C'est exactement la même chose. Et puis alors, donc, ce qui est nouveau au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est l'écologie et la couleur verte qui devient une idéologie.
Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Votre livre s'appellera, il paraîtra au printemps, au Seuil, je le disais, « Vert, histoire d'une couleur ». Je voudrais également rendre hommage à un livre tout à fait remarquable qui vient de paraître au CNRS Éditions, un livre d'Annie Mollard-Desfour, qui est une linguiste et qui s'appelle tout simplement « Vert ». C'est un dictionnaire de la couleur avec une réflexion sur les mots et les expressions d'aujourd'hui, 20e et 21e siècle, concernant cette couleur verte qui nous a réunis ce matin pour notre bonheur, Michel Pastoureau. Vous pourrez retrouver une bibliographie complète, outre les livres que j'ai déjà cités, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également réécouter cette émission pendant 1000 jours et aussi la podcaster pendant un an. Samedi prochain, je ne sais pas si nous éloignerons tellement de notre propos d'aujourd'hui, Michel Pastoureau, nous parlerons des rêves. mais sous l'angle scientifique, avec une réflexion sur l'époque où la science s'est emparée des rêves, entre 1800 et 1950 approximativement. Et je recevrai, pour en parler, une grande rêveuse, Jacqueline Carrois. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur et réalisée, comme toujours, par Patrick Molinier. Avec à la prise de son Vincent Renet, à la discothèque Romain Couturier et pour les archives INA, Sandra Escamez. Et puis comme chaque samedi, vous allez retrouver dans un instant Dominique Rousset pour son émission « L'économie en question ».